Le premier souci avec cette pandémie maintenant, c'est d'assurer la sécurité et la santé des élèves, des familles, des enseignants. Donc, il y a des efforts simplement d'information qui sont mis en place par les autorités nationales, mais aussi par les autorités éducatives. Donc, des informations sur la prévention, sur les comportements à suivre. Maintenant, pour ce qui est des études, évidemment, il y a une disruption des études à tous les niveaux. Et les façons de faire face diffèrent de pays en pays selon leur capacité en termes d'éducation à distance. Alors, il y a des pays qui ont des programmes d'éducation à distance, que ce soit à travers la télévision, la radio ou bien en ligne. Et les pays qui étaient déjà dotés de ces plateformes, généralement pour les populations plus vulnérables ou résidant dans des régions éloignées, isolées, ces pays-là essayent de renforcer ces canaux d'éducation à distance, mais ça pose plusieurs défis. On le voit même dans des pays et des sociétés avancées, pas tout le monde est connecté. Donc en général, c'est des combinaisons de médias traditionnels, je dirais la télévision, la radio, avec, quand c'est possible, l'enseignement en ligne.
Alors vous dites qu'il y a plusieurs défis, c'est quel genre de défis par exemple?
Pour le premier défi, avec les fermetures d'écoles, et ça, on connaît d'autres expériences de fermetures d'écoles non planifiées pour diverses raisons, que ce soit d'autres situations d'épidémie ou d'instabilité politique ou de désastres naturels. Ça affecte les familles et les élèves de familles plus vulnérables, tout d'abord à travers d'autres services que l'école offre, tels que les repas scolaires, par exemple. Et ça, on le voit même aux États-Unis maintenant, ça pose problème dans beaucoup de localités et de villes. Donc ça, c'est un premier impact. Ensuite, en ce qui concerne les études, bon, pour ce qui est des solutions en ligne, il faut déjà avoir la connectivité à la maison. Il faut avoir les appareils, donc un ordinateur, une tablette, un smartphone. Quand on a plusieurs enfants, ça devient un défi supplémentaire. Après, il y a la question de l'encadrement possible des parents, tous maintenant obligés à jouer un rôle un peu d'éducateur. Si on ne maîtrise pas la langue officielle de l'enseignement, donc on a déjà en temps normal difficulté à suivre. Si on n'a pas les compétences numériques, l'habitude de travailler avec un ordinateur, une plateforme électronique, il y a les questions de connectivité, d'accès aux appareils et après les profils même des parents ou bien des responsables des enfants en termes de maîtrise de la langue, de compétences numériques, etc.
Est-ce qu'on a une idée de combien d'enfants arrivent à bénéficier de ces plateformes parallèles, de cette scolarité parallèle à distance?
Non, il y a des enquêtes qui se font à travers, et non seulement UNESCO, mais différents partenaires. Mais on n'a pas de chiffres exacts là-dessus. Mais pour donner une comparaison de notre région, le Mexique par exemple, on estime qu'il y a 60% des élèves qui sont connectés. Donc il y a 40% qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'ils combinent les modalités d'éducation à distance à la fois en ligne avec la télévision. La télévision est beaucoup plus démocratiquement distribuée. 95% des élèves au Mexique ont accès à la télévision. D'autres pays, l'Iran a misé vraiment sur la télévision. Le Maroc a visé aussi sur la télévision éducative depuis la fermeture des écoles au début de la semaine passée. En ligne pour les universités, mais essentiellement à travers la télévision. Donc c'est vraiment les médias traditionnels qui vont pouvoir assurer une certaine continuité des études, ou en tout cas d'activité et de contenu pédagogique, tout au moins si c'est pas aligné tout à fait sur les programmes. Quoi qu'on dise sur les nouveaux médias, et même dans des situations de contexte plus avancé, l'épine dorsale va être quand même des médias plus traditionnels comme la télévision et la radio.
Ça se passe par tranche horaire selon les âges ou ils font comment?
Oui, pour ceux qui suivent le programme, donc selon les classes ou les tranches d'âge, à des heures planifiées. C'est le cas en Iran, au Maroc. Dans d'autres cas, c'est aussi si on n'a pas tout à fait les programmes et les cours à la télévision. C'est aussi d'orienter, on le fait même en France, d'orienter certains des contenus généraux, disons, de la télévision, de la radio, à des contenus un peu plus pédagogiques, même s'ils ne sont pas forcément, disons, des contenus des programmes d'études.
Et la radio?
Et la radio reste, des fois il y a des combinaisons qui sont très efficaces entre la radio et possibilité de participer à travers un téléphone. Ça peut être un téléphone fixe ou un mobile, de pouvoir intervenir dans des cours qui sont diffusés par radio. Il y a aussi les radios communautaires, les radios locales. Il y a des expériences qui sont assez réussies dans tout ce qui est un peu éducation à distance au sens large, avec des médias traditionnels comme la radio et la télévision. Le défi maintenant, c'est d'augmenter ça à une échelle nationale. En général, toutes ces stratégies étaient des stratégies plutôt locales pour des populations ciblées, souvent plus isolées ou ayant un accès plus difficile à l'éducation pour différentes raisons, question d'autres responsabilités de travail, de famille ou de questions d'éloignement. Le défi qui se pose à tous, que ce soit pays du Nord ou pays du Sud maintenant, c'est comment mettre à échelle ces programmes d'éducation à distance. Et dans tous les cas, les stratégies sont toutes mixtes en termes de technologie, à des degrés variés selon les contextes, mais entre radio, télévision et les technologies nouvelles.